Ensemble sur Calade.
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 Ensemble sur Calade, c'est en direct du lundi au vendredi de 12h à 14h, évidemment sur Calade. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Calade dans ce beau mercredi 27 mai 2020. J'espère que tout va pour le mieux de votre côté, que vous et vos proches se portez bien. Le soleil est toujours là avec nous et ça fait toujours aussi plaisir. Les températures montent jusqu'à 25 degrés aujourd'hui. Et on ne devrait pas être gêné par les nuages avant lundi prochain d'après Météo France. Ce qui nous fait donc une belle semaine de soleil. Au programme de l'émission d'aujourd'hui, dans Ensemble sur Calade, notre premier invité, c'est Marc Pedoux, sculpteur qui gère le lieu d'exposition de Villefranche, le Hangar 717, qu'on trouve au 717 rue de Tizy, lieu qui ouvre ses portes ce week-end. Je retrouverai ensuite mon professeur Patrick, qui nous proposera une rubrique sur l'actualité mondiale. On prend un petit peu de la hauteur aujourd'hui par rapport à nos sujets habituels très locaux. On retrouvera ensuite Olivier Le Gros, directeur des affaires culturelles de la communauté de communes Saône-Beaujolais. On a rendez-vous avec Vincent Pourageau de l'émission Cinérama pour un nouveau conseil ciné, puisque nous sommes mercredi, jour habituel des sorties ciné. On retrouvera évidemment Georges Botton pour sa rubrique Mai la 11e. Et enfin, nous avons rendez-vous avec Svetlana Guillard-Braga de Musicadem pour parler de cette école de musique à Villefranche. Mais d'abord, eh bien pour commencer cette émission, je vous propose de repartir dans les années 60 et on va le faire en musique avec un titre qui met de bonne humeur. Il y a eu de nombreuses interprétations de ce morceau et j'ai choisi pour vous la version de l'immense Otis Redding. Voici Knock on Wood. On est ensemble sur Calade, il est 12h15, merci d'être avec nous.
I'm
Knock on Wood, c'était Otis Redding sur Calade avec ce morceau qui est toujours aussi bon malgré les années qui passent.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Et oui, nous sommes ensemble sur Calade et notre première invitée dans cette émission aujourd'hui, c'est Marc Pedoux, sculpteur et également gérant du lieu d'exposition qui est le Hangar 717 à Villefranche. Bonjour Marc Pedoux.
Oui, bonjour. Bonjour Radio Calade.
Vous allez bien aujourd'hui? Vous profitez du beau temps?
Ça va, il fait beau temps. Voilà, on se prépare pour faire l'installation de l'exposition qui va s'ouvrir ce week-end. Voilà.
Alors effectivement, c'est la réouverture qui arrive. J'imagine que c'est une grande organisation qui vous est demandée. Avant d'en parler, j'aimerais qu'on essaye d'un peu mieux vous connaître. Comment est-ce qu'on devient sculpteur? Comment est-ce qu'on ouvre un lieu d'art et d'exposition? Quel est votre parcours, Marc Pedoux?
Écoutez, moi, la sculpture, j'ai l'impression que j'ai ça depuis l'adolescence, parce que adolescent, je modelais déjà la terre. Bon, après des études techniques dans un lycée, je me sentais pas de venir à travailler dans des bureaux ou dans des ateliers. Et j'ai donc opté pour faire l'École nationale des beaux-arts de Lyon. Voilà, c'est comme ça que j'ai approfondi moi, ce travail que j'avais, enfin, cette propension que j'avais à faire du modelage, des choses comme ça, et puis les disciplines artistiques. Donc j'étais bon en dessin quand j'étais au lycée, et puis donc je me suis inscrit à l'École des Beaux-Arts pour passer à la fin, au bout de 5 ans, un diplôme de sculpteur. Voilà.
La sculpture, ça désigne, c'est assez large comme domaine, suivant les matières utilisées, les techniques, ça peut désigner beaucoup de choses, la sculpture, non?
Bah écoutez, oui, depuis Rodin, depuis le début du XXe siècle, y a eu beaucoup d'évolutions, hein, si vous voulez. Quand on regarde un peu l'histoire de l'art, il y a des artistes comme Picasso, qui était bon, un très grand dessinateur, un très grand peintre, mais a abordé aussi la sculpture. Et si vous voulez, au début du XXe siècle, dans l'histoire de l'art, avec des gens comme Marcel Duchamp, les dadaïstes, des choses comme ça, qui sont intervenus avec des collages, avec des objets, si vous voulez, la sculpture traditionnelle qui se faisait en modelage, et puis après écouler des bronzes, après tailler le marbre, tailler la pierre, si vous voulez, les nouvelles technologies qui sont apparues au début du XXe siècle nous ont permis d'avoir une grande diversité de formes artistiques et qui vont arriver après la Deuxième Guerre mondiale à ce qu'on appelle des installations, ce qu'avaient déjà expérimenté un peu les dadaïstes dans les années 20, vous voyez, juste après la Première Guerre mondiale. Voilà un petit peu pour l'évolution de la sculpture actuelle.
Et alors vous, dans ce monde de la sculpture, quel est c'est un art que vous pratiquez encore aujourd'hui? Comment est-ce qu'on pourrait caractériser vos œuvres? Est-ce que vous avez une spécificité, une matière de prédilection?
Ben voilà, moi, étudiant, j'ai eu un professeur qui était un grand sculpteur et qui taillait beaucoup la pierre. Et donc, à ce moment-là, moi, dans les années 70, quand j'ai passé mon diplôme, j'étais issu de cette branche des sculpteurs, des gens comme Étienne Martin, un Français, Henri Moore, et puis un peu avant, des gens comme Constantin Brancusi, qui était un Roumain qui avait immigré à Paris. C'est-à-dire, c'est dans la sculpture en taille directe, c'était quand même encore une approche très très classique et très traditionnelle. Et puis après, dans les années 80, moi j'ai évolué j'ai eu une ouverture vers ce qu'on appelle le land art, l'art dans la nature. Étant donné que moi je travaillais la pierre, j'allais en carrière, j'allais chercher des cailloux, et j'ai trouvé que d'utiliser aussi des formes brutes, ça m'intéressait. Voilà, un petit peu comme ça que j'ai évolué, et maintenant je suis plus à fabriquer des installations à partir d'éléments de la nature.
Le Land Art, est-ce que vous pourrez nous expliquer peut-être un peu plus en quoi ça consiste? C'est disposer des éléments de nature, c'est la façon d'aménager des choses?
Voilà, mais le Land Art est né à la fois en Angleterre et aux États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 60-70, les artistes ont voulu sortir des ateliers, des institutions, des musées, des galeries, et sont allés travailler dans la nature, faire des interventions, des choses dans les déserts aux États-Unis, en Angleterre, c'était il y a moins de grands espaces qu'aux États-Unis, mais il y a des artistes pour qui la marche était un moyen d'utiliser aussi l'environnement, des gens comme Richard Long, qui est un des précurseurs, a fait beaucoup de parcours dans la nature, on a installé des pierres dans la nature, vous voyez, déplacé des pierres. Il y a un travail aussi de déplacement de matériaux, de déplacement de symboles. On est sorti des musées, des galeries et des ateliers, justement. Après, on est revenu un petit peu par la photographie, la vidéo, pour montrer ses œuvres dans les institutions. Voilà un petit peu cette évolution qui s'est passée dans les années 70.
Et alors, pour revenir plutôt dans un lieu d'exposition et pour parler un petit peu du hangar 717, vous êtes installé entre Villefranche et Glaizé. Depuis combien de temps, quelle est l'histoire de ce lieu, du hangar 717?
Mais écoutez, moi, après avoir eu un atelier sur Villeurbanne, c'est-à-dire dans l'agglomération lyonnaise, où j'avais un loft, j'ai eu envie d'aller à la campagne. Et donc, j'ai acheté une ferme avec des dépendances qui me servaient d'atelier. J'étais en pleine campagne. Et je suis revenu sur l'agglomération de Villefranche il y a 5-6 ans, où j'ai trouvé ce hangar qui était un entrepôt de charpentiers, le menuisier. Et comme je cherchais un lieu pour déménager mon atelier de la campagne, je suis arrivé dans cet espace que j'ai aménagé progressivement pour en faire mon lieu de travail, de stockage. Et comme le lieu était assez grand, j'ai décidé de créer un espace d'exposition, parce que j'ai eu l'habitude d'inviter d'autres artistes, parce que j'ai enseigné la sculpture dans une association sur Lyon, où j'enseignais à des particuliers, à des adultes. Et donc j'invitais chaque année à exposer des sculpteurs professionnels. Et donc dans mon atelier qui était assez grand, j'ai décidé de faire un espace galerie, voilà.
Et donc cet espace galerie, il a été fermé pendant un moment suite au confinement. Il va réouvrir ses portes ce week-end, le 29 mai, pour accueillir deux artistes que vous mettez en avant, Anne Mangeau et Sylvie Maurice. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette exposition ?
Ben voilà, écoutez, moi, au hangar 717, on expose toutes formes d'artistes, à la fois des peintres, des sculpteurs, des graveurs. On fait aussi venir des musiciens, parce que l'idée, c'était aussi de faire partager différentes formes d'art, à la fois l'art vivant et puis les artistes plasticiens qui sont pas souvent mis en avant, hein, surtout avec le Covid. On parle beaucoup des musiciens, des gens du théâtre. Et c'est vrai que moi, je suis content de pouvoir réouvrir avec ces deux artistes femmes qui sont à la fois sculpteurs et graveurs. On peut dire aussi sculptrices, parce que c'est vrai que le terme est aussi employé. Donc ce sont deux artistes qui travaillent dans l'espace avec des matériaux très simples. Voilà. Une travaille plutôt avec du métal, avec du fil de fer, avec des plaques de métal. C'est Sylvie Maurice, qu'on se connaît depuis très longtemps, elle a fait aussi les Beaux-Arts de Lyon. Anne Mangeau, elle travaille plutôt avec des fibres végétales, avec des branches, avec des choses comme ça. Elle est assez proche de l'art nature aussi, c'est-à-dire proche du Land Art. Elle a fait pas mal d'installations. Sylvie Maurice est plus classique dans son travail. Enfin, toutes les deux, de toute façon, s'inspirent de la nature. Voilà un petit peu leur démarche.
D'accord, donc une exposition plutôt axée sur la nature. Le nom de l'exposition, c'est Écriture dans l'espace. Qu'est-ce que ça signifie, ce nom?
C'est-à-dire que ça va un peu à l'encontre de la sculpture traditionnelle où on travaille en modelage avec des formes pleines, si vous voulez, le modelage, le bronze, la pierre, on taille un gros bloc pour aller chercher des formes. Mmh. Alors que ces deux artistes, elles, partent de choses très simples, comme des choses qui sont linéaires, comme le fil de fer, ou la branche, ou la tôle, qui sont des choses plates, et les assemblent de telle manière à ce que ça engendre des volumes. Donc, ce sont des volumes qui sont vides, enfin, qui sont juste dessinés dans l'espace par l'assemblage de ces lignes. Soit c'est soudé, soit c'est fait avec des nœuds. Voilà, c'est des techniques très 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 simples, hein, le pliage, la torsion, qui aboutissent à créer des œuvres tout à fait singulières.
Donc des techniques plutôt à l'inverse de ce qu'on a traditionnellement dans la sculpture. Au lieu de retirer du volume, on en crée...
Voilà, on crée un espace. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de vide, mais cet espace est délimité par justement ces lignes qui sont construites dans cet espace. Et ça devient des structures, des architectures, hein, ça devient des sortes de cages. C'est vrai que... C'est ce côté intéressant, ça forme un peu comme une structure, un squelette dans l'espace qui s'inspire de formes déjà de la nature. Hein. Sylvie Maurice s'inspire beaucoup d'architecture naturelle, la forme des animaux, des squelettes, des structures géométriques aussi, voilà.
Ces œuvres d'art, on pourra les voir donc au Hangar 717 à partir de vendredi.
Vendredi après-midi, le vernissage, vu les conditions, se passera toute la journée de samedi. Les deux artistes seront là donc le samedi après-midi de 14h à 20h. On va étaler ça sur toute la journée. Et comme l'espace du hangar est assez grand, les gens pourront se côtoyer en gardant les distances. Dans la partie plus confinée de la galerie proprement dite, donc là, on acceptera qui est entre 5 et 10 personnes, pas plus, pour regarder avec des masques les barrières de sécurité. Et autrement, le hangar étant assez vaste, il y a une partie à l'arrière aussi qui est un jardin et la zone où je stocke mes matériaux. Les gens pourront, à la fois dans la cour avant de rentrer dans la galerie, pouvoir discuter avec les artistes. Il y aura quand même pas mal de possibilités d'espace.
Vous pourrez accueillir plus de monde.
Mais voilà, c'est vrai que généralement, les moments de vernissage sont assez intenses au hangar. Il arrive à y avoir assez souvent, pour des vernissages, plus de 100 personnes. Mmh. Donc là, bon, j'espère que ça va s'étaler. Et l'espace étant suffisamment grand, on pourra se rencontrer normalement, si vous voulez.
Très bien, donc ça se passe ce samedi, le vernissage de l'exposition Écriture dans l'espace au Hangar 717. On retrouve toutes les informations sur votre page Facebook en tapant tout simplement Hangar 717. Voilà. Marc Bedou, vous avez parlé pendant qu'on discutait, vous avez évoqué le fait que les musiciens ou les artistes de scène, je crois que c'est les mots que vous avez utilisés, ont un peu plus de visibilité peut-être, et on a beaucoup parlé de leur situation pendant le confinement. On n'a pas forcément parlé des sculpteurs et des personnes de votre métier.
Les plasticiens, ce qu'on appelle généralement les plasticiens, ceux qui fabriquent des images. Non, on n'a pas trop parlé aussi des écrivains, les poètes, tout ça, qui sont eux toujours confinés chez eux pour écrire. Et c'est vrai que ce qui nous manque, nous, un peu comme les gens du spectacle vivant, c'est de montrer notre travail. Alors c'est vrai qu'ils sont organisés, ils sont structurés, il y a les intermittents, mais ces artistes qui sont des interprètes, bien souvent, le créateur est toujours confiné dans son... dans son atelier. Et c'est vrai qu'à un certain moment, il faut qu'il sorte de son atelier, qu'il sorte de son œuvre, sa création, et qu'il puisse la montrer. Et c'est vrai que là, je suis très content qu'on ait la possibilité de pouvoir faire découvrir et montrer des œuvres. Il faut qu'il puisse les montrer, trouver des amateurs qui aient envie de les acheter. Et c'est vrai que c'est un marché. Et c'est vrai que dans les médias, on parle rarement de nous, c'est-à-dire des créateurs, des peintres, des sculpteurs, ces artistes qui fabriquent des images en deux dimensions, en trois dimensions. On a un statut assez particulier et un peu ignoré du grand public. Hein. Alors les gens savent que y a des peintres, des sculpteurs, et voilà. Mais ils n'ont pas en tête aussi que il y a un marché de l'art. Alors, le marché de l'art est très connu quand il y a des ventes publiques avec des sommes extraordinaires, ouais. Mais tous les artistes français, les artistes plasticiens, il y a eu une émission sur France Inter sur la culture le 5 mai, on n'a pas parlé des plasticiens, on a parlé des musiciens, des gens du théâtre, tout ça, des danseurs. Oui, mais les plasticiens, on n'en parle pas beaucoup.
Avec ce statut si particulier qui vous est imposé, entrepreneur quand on est artiste, ça paraît assez paradoxal.
Oui, tout à fait, voilà.
En tout cas, on est heureux de retrouver les œuvres de tous ces artistes plasticiens, de retrouver ces lieux de culture qui commencent à ouvrir petit à petit, dont le Hangar 717 ce week-end. Merci beaucoup Marc Pedoux de nous avoir parlé de cette ouverture.
Merci, et puis écoutez, les gens ont tout le mois de juin pour pouvoir venir voir cette exposition.
Et avec grand plaisir, très bonne journée Marc Pedoux.
Ensemble sur Calade. Ensemble sur Calade. Ensemble sur Calade.
Allez, on va faire une petite pause musicale. Puisqu'on a beaucoup parlé d'artistes, on va écouter Oxmo Puccino sur Khaled qui chante tout simplement artiste.
Viens faire la fête. Nous naissons tous fous avec une vie pour guérir. Tant qu'une belle vérité reste à conquérir. Trouver l'idée qui marche 200 ans. L'impression de le faire en plaisantant. Accueillis comme des clowns pas drôles, à la profonde parole des puits de pétrole. Avant que la fortune soit subite, tous les génies étaient stupides. Couver le feu dans la glace qu'on s'y réunisse des fois. Excusez-nous la réussite. Ceux qui n'aiment pas n'ont qu'à le faire d'abord. Allez mettre plus de 10 personnes d'accord. Artiste, c'est pas difficile. On essaye de faire un pull avec des ficelles. Tu peins des chansons à la décibelle. Pour trouver ce truc qui nous la rend si belle. Artiste, c'est pas difficile. On essaye de faire un pull avec des ficelles. Tu peins des chansons à la décibelle. Trouver cette chose qui nous la rend si belle. Il faut plus que des qualités pour modestement changer l'humanité. Devenir la première personne des singuliers se passe rarement de façon régulière et de l'œuvre. Comment chiffrer la valeur lorsqu'à table le succès devient la valeur. Le suspense des prochains loyers peut causer des problèmes de loyauté. L'artiste, c'est être droit dans ses bottes, être détroit sur 10 000 et garder ses potes. Pouvoir rebondir en abondance en gardant votre sourire et puis tant qu'on danse. Artiste, c'est pas difficile, on essaye de faire un pull avec des ficelles. Tu peins des chansons à la décibelle pour trouver ce truc qui nous la rend si belle. Artiste, c'est pas difficile, on essaye de faire un pull avec des ficelles. Tu peins des chansons à la décibelle, trouver cette chose qui nous la rend si belle. Existe grâce à quelques femmes, pas de milliers d'amis, une centaine de femmes, une vie de famille acrobatique. Artiste, c'est pour ça qu'elle t'aime et puis te quitte. A peur d'être archivé parce qu'on fait moins bien. Appartenir au passé d'un succès lointain. Y mettre toute son âme et si c'est nul, comprenez que les critiques soient malvenues. Le temps guette, les nouveaux arrivent. Tant de poissons vont s'y ronger la grise. Artiste, c'est pas difficile. On essaye de faire un pull avec des ficelles. Tu peins des chansons à la décibelle pour trouver ce truc qui nous la rend si belle. Artiste, c'est pas difficile. On essaye de faire un pull avec des ficelles. Tu peins des chansons à la décibelle pour trouver ce truc qui nous la rend si belle.
Artiste, c'est pas difficile, chante Oxmo Puccino. Il suffit de faire un pull avec 10 ficelles. On retrouve tout de suite notre mon professeur, le prof Patrick, pour sa rubrique. Aujourd'hui, Patrick est animateur de l'émission Poker Menteur que vous retrouvez le jeudi à 20h et le samedi à 11h, la troisième semaine du mois. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu en dehors du local, comme on a l'habitude. Avec lui, voici le prof sur Calade.
Ensemble sur Calade, c'est évidemment sur Calade.
Calade. Alors bonjour Patrick, comment vas-tu aujourd'hui ?
Ça va très bien, je te remercie Mathieu.
Alors quel sujet vas-tu aborder dans ta chronique ?
Alors dans cette première chronique, on va parler de la crise. Je ne vais pas être très original, mais autant commencer par le commencement. Je vais parler de la crise qui nous frappe depuis 3 mois et qui frappe tous les habitants de cette planète. Cette crise, c'est du jamais vu hein, dans son ampleur, on a compris. Le monde, pourtant, a été frappé par d'autres crises sanitaires qui pourraient, en regardant de loin, paraître identiques. Par exemple, la grippe espagnole en 1918, qui a tué plus de 2 millions de personnes en Europe, qui a tué entre 5 et 9 millions de personnes en Chine et 18 millions de personnes en Inde. Donc, bon, il y a eu des crises sanitaires dans le passé. Et pourtant, je m'en vais affirmer, ça va être ma problématique, comme diraient les étudiants, ou alors mon accroche, comme diraient les journalistes, je m'en vais affirmer ici que notre crise à nous, celle du Covid-19, est bien différente des précédentes. Démonstration. Notre Covid à nous, déjà, quelques petits rappels, il est de la famille des coronavirus, virus à couronne. C'est le troisième rejeton d'une famille de 3 frangins, d'accord ? Et parmi les 3 frangins, l'aîné, c'était le SRAS. Syndrome respiratoire aigu sévère, apparu en Chine en 2003. Première maladie grave et transmissible a émergé au 21e siècle, selon l'Institut Pasteur. Il a fait 8000 cas de maladie, 800 morts en 2003. Voilà. Le cadet, en 2012, donc 9 ans plus tard, c'est le MERS, syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Environ 2500 personnes touchées. Le point commun des 3 frangins avec notre Covid, c'est qu'ils se transmettent tous les 3 d'animaux aux êtres humains. Et qui sont tous les 3, bien sûr, puisque c'est des frangins, issus de la même maman, qui est la chauve-souris. Mais je vais revenir à ma problématique de départ. Pourquoi est-ce que cette crise du Covid-19 est une crise à nul autre pareille ? Eh bien, parce que c'est la première, en fait, non, c'est pas la première, c'est la deuxième crise dont l'envergure mondiale est la capacité de déstabilisation de notre société sont dues directement à notre activité économique. Bref, c'est la deuxième crise qui nous dit en face, de façon directe, on va dans le mur là, d'accord ? Notre système économique est en train de détruire la planète, ça ne durera pas éternellement, et les dégâts vont être tôt ou tard irréversibles. Alors c'est une affirmation que certains ont entendue, d'accord, mais qu'il faut quand même étayer, donc je vais apporter 2 arguments pour étayer cette affirmation. Le premier argument, aborder le premier argument, on va revenir au grand frère, le SRAS, d'accord, qui en 2003 est parti de Chine. Quand il est parti de Chine en 2003, la Chine était bien moins ouverte au commerce international qu'aujourd'hui. La circulation des êtres humains vers l'étranger était beaucoup moins forte. Sauf que après, il s'est passé 17 ans de mondialisation. Et ces 17 ans ont fait de la Chine une sorte de hub. Un hub, c'est quoi ? C'est un très grand aéroport international qui a des liaisons dans le monde entier. En gros, nos amis des coronavirus ont eu des billets gratuits pour voyager dans le monde entier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième argument que je vais apporter, alors va nécessiter, je dirais, un petit raisonnement. On le sait, les virus se transmettent, du moins ceux-là, de cette famille-là, se transmettent des animaux aux êtres humains. On a dit que ça partait de la chauve-souris, ça passe par un animal intermédiaire et ça arrive aux êtres humains. Mais bon, il faut savoir que de 1940 à 2004, il y a 84 virus qui ont réussi à passer de l'animal à l'être humain. La nouveauté, c'est qu'en fait, ce phénomène est en train de s'accélérer. 75% des nouvelles maladies qui ont affecté l'homme ces 10 dernières années ont été provoquées par des pathogènes d'origine animale ou des produits d'origine animale. Et donc, on voit qu'avec la mondialisation, cette transmission s'accélère et a des répercussions plus importantes. Parce que la mondialisation, c'est pas uniquement la circulation massive des êtres humains, c'est aussi la destruction accélérée des écosystèmes où évoluent les animaux en question. Conséquence, eh bien, la mise en contact des animaux en question avec les êtres humains se fait de plus en plus fréquente. Et c'est là le point de départ des contaminations. On en arrive donc à notre deuxième argument, la destruction des écosystèmes, la contamination accélérée par le virus transmis du monde animal, par les virus, ils sont nombreux, c'est ce qui provoque cet aspect inédit de notre crise. Il y a une étude qui a été publiée par la revue Nature, revue scientifique Nature en 2018, qui montrait que seulement 23% des espaces terrestres et 13% des espaces maritimes sont encore aujourd'hui préservés des activités humaines. En France, on sait qu'il n'y a pratiquement plus aucun marais et aucune forêt qui soient entièrement naturelles. Au Brésil, pendant les 3 mois de la crise, du confinement et de la crise du Covid, la déforestation de l'Amazonie a augmenté de 170% par rapport à l'année précédente, avec la bénédiction, bien sûr, de M. Bolsonaro, le président brésilien. D'où, conséquence de tout ça, les affirmations d'un grand nombre de scientifiques qui disent qu'on est entré dans la 6e extinction de masse de l'histoire de la Terre. Conclusion de tout ça, on est désormais dans un monde où les conséquences de l'activité humaine nous reviennent dans la figure comme un boomerang. Et il faut avoir en tête que c'est que le début. On commence à peine à passer à la caisse et on continuera à passer à la caisse. Alors Mathieu, est-ce que tu te souviens, j'ai parlé de la deuxième crise, donc ça sous-entend qu'il y a une première crise emblématique de ces temps modernes, et cette crise, je ne vais pas maintenir le suspense trop longtemps parce qu'en fait c'est assez évident, cette première crise c'est le réchauffement climatique. Mais la grosse différence c'est que le réchauffement climatique c'est quelque chose de progressif, et donc on peut encore, et certains, bonjour à Donald Trump ou Bolsonaro, peuvent encore dire mais non c'est pas vrai, etc. Au moins, notre crise du Covid-19 qu'on est en train de vivre, elle a la vertu d'une grande claque dans la figure. On la sent passer, ça nous réveille, on ne peut pas faire comme si on n'avait pas vu. Pour terminer, je vais faire un petit lien entre les deux crises. Donc la première, celle du réchauffement climatique, et la deuxième, celle du Covid-19. Petite devinette, Mathieu, est-ce que tu sais ce qu'est le permafrost ?
Alors, c'est les glaciers qui sont censés être permanents et ne jamais geler. Ouais.
Alors, c'est pas des glaciers, mais c'est le sol. Dans les zones arctiques, tu as raison, c'est 20% de la surface totale de la planète, qui sont en permanence gelées, tout à fait. Et tu fais bien de dire, ils sont censés être en permanence gelés, parce qu'avec le réchauffement climatique, malheureusement, ils commencent à se dégeler. Et devine quoi, dans ce sol gelé qui commence à se dégeler petit à petit, il y a un taxon de bactéries, de virus, en veux-tu en voilà, qui sont vieux depuis quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'années. Et plus ça va fondre, plus on va aller réveiller les petites bêtes.
Ouais.
Et quand les petites bêtes vont se réveiller, et si certaines contaminent les êtres humains, notre petit Covid-19, notre vilain Covid-19, va paraître comme un petit agneau tout doux par rapport à la puissance dévastatrice de certaines bactéries ou certains virus qu'on va découvrir malheureusement à l'avenir. Voilà, j'en ai terminé avec une note bien flippante, mais je dirais, il est bon de flipper un petit peu avant de se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ça sera l'objet peut-être des chroniques futures, Mathieu.
Oui, c'est vrai qu'il faut faire attention à cette claque dans la tronche qu'on s'est pris, et comme vous dites, professeur, il faudrait ne pas l'oublier et pas retourner, comme tout le monde le dit, à la normale.
Business as usual, comme si rien ne s'était passé. Ce sera tout à fait un axe de réflexion pour nos futures chroniques.
Merci beaucoup pour cette rubrique et puis pour ce petit moment de flip nécessaire.
À bientôt.
Ensemble sur Calade.
Et après ce petit moment de flip nécessaire, un sujet peut-être un peu plus léger, en tout cas qui permet d'être plus optimiste, je trouve. On va parler de culture et on va parler des lieux de culture qu'il y a dans le Beaujolais Saône, avec Olivier Legros, directeur des affaires culturelles de la communauté de communes Saône Beaujolais. Bonjour Olivier Legros, comment allez-vous ?
Bonjour, très bien, merci.
La communauté de communes Saône-Beaujolais, vous êtes directeur des affaires culturelles. Quelles sont les missions, quels sont les lieux que vous représentez, entre guillemets ?
Alors la communauté de communes de Beaujolais regroupe 35 communes, Beaujeu, Belleville, les Deux-Garonnes, etc. C'est en fait la communauté de communes qui est entre l'agglo de Villefranche et puis Mâcon-Beaujolais agglomération, donc c'est tout le nord du département. On s'occupe d'un certain nombre d'équipements culturels, notamment on gère en direct 3 médiathèques, le centre culturel Le Singulier qui est à Belleville, la médiathèque de Beaujeu, la médiathèque de Quincier, puis on coordonne aussi le réseau des médiathèques qui sont dans les communes. Il y a 11 bibliothèques au total qui sont en réseau. Et on prête des livres, on fait un fonctionnement avec des navettes hebdomadaires entre toutes ces bibliothèques. Et puis on fait aussi de l'événementiel l'été, des cinémas en plein air, des concerts, etc.
Et il y a les lieux comme les musées, la maison de la randonnée qui sont aussi rattachés à...
Oui. Alors on gère aussi, on s'occupe aussi de l'Hôtel Dieu de Belleville, qui est un équipement du 18e, qui est un musée, et puis la Maison du Terroir qui est située à Beaujeu avec un espace de visite pour découvrir le Beaujolais. Et effectivement, en équipement touristique, on a la Maison de la Randonnée au Col de Cry, qui est un équipement pour les randonneurs et pour les coureurs, les trailers, c'est la Maison de la Randonnée et du Trail. C'est des équipements qu'on a réouverts avec la fin du confinement il y a 2 semaines, là.
Les gens se sont mis à la randonnée. J'imagine qu'après 2 mois de confinement, on a envie de refaire des belles balades. On avait un peu l'occasion de sortir à 1 kilomètre de chez soi, mais j'imagine que c'était une attente parmi de nombreuses autres attentes.
Oui, ça, la maison de la randonnée, ça a très bien redémarré. Pour le week-end, on a redémarré pour le week-end de l'Ascension la semaine dernière. Les parkings étaient pleins et puis y avait du monde sur les sentiers un peu de partout. Alors, on a la chance d'avoir beaucoup de sentiers de randonnée, beaucoup d'itinéraires, des itinéraires à la journée, des itinéraires un peu plus longs jusqu'à 120 km à faire en plusieurs étapes, des sentiers de VTT, des sentiers équestres et puis des sentiers de trail pour les gens qui aiment courir en pleine nature. Donc, effectivement, et puis la météo c'est plutôt bien prêté, là, jeudi et vendredi de la semaine dernière, il y avait du monde et c'est une activité qu'on peut pratiquer à moins de 100 km de chez soi, dans le respect des règles sanitaires, il n'y a pas de risque de contamination et c'est bien agréable.
Et puis on a des superbes paysages dans le Beaujolais, donc autant en profiter pour les découvrir à pied sur nos sentiers. Je voulais parler avec vous principalement du côté médiathèque, bibliothèque, qui nous a beaucoup manqué pendant la période du confinement. Comment ça s'est passé pour ces lieux pendant les 2 derniers mois ?
Alors, comment ça s'est passé ? Ça s'est passé. Il y a eu un petit effet de sidération. La fermeture était absolument prévue pour personne. Donc, il y a eu un petit effet de sidération. Puis, en fait, très vite, on s'est rendu compte qu'on pouvait valoriser, développer les ressources numériques qui étaient déjà en place. Et on a joué à fond la carte du numérique avec de l'accès vidéo à distance, avec de l'accès radio, découverte de la musique, des formations en ligne, et puis tout un tas de valorisation de contenu, de médiation. Comment dire ? Il y a énormément de contenu disponible en ligne. On peut trouver des milliers de titres de musique. On peut trouver énormément de livres numériques. La question, c'est de savoir comment s'y retrouver et comment trouver des choses intéressantes et qui nous conviennent. Comment se faire conseiller dans tout ça. Et en fait, c'est le travail qu'ont fait les bibliothécaires pendant toutes ces semaines, via Facebook notamment, avec... plusieurs actions intéressantes, avec des lectures offertes, avec un concours vidéo de montage en stop motion, avec des chroniques de bandes dessinées quotidiennes. Et en fait, il y a un lien assez fort, assez régulier qui s'est développé avec nos usagers, avec les abonnés des médiathèques. Et puis on a étendu ça, par exemple, les accès numériques avant étaient réservés qu'aux abonnés des médiathèques de la communauté communes de Beaujolais. Là, on l'a ouvert à tous les habitants. On a les statistiques de fréquentation, on a vu effectivement, on a plus que doublé la fréquentation dans les 10 premiers jours. Donc c'est vraiment ça, c'était intéressant et c'était intéressant d'avoir les retours des usagers et des commentaires sur ce qui était mis en avant.
Il y a vous avez une plateforme pour accéder à différents fichiers multimédia, donc livres, audio, vidéo, j'imagine qu'elle a été, vous nous l'avez dit, que la fréquentation a doublé, mais vous avez aussi beaucoup, ce que vous avez dit, la médiation culturelle, c'est guider tout simplement les visiteurs. Quand on est dans la médiathèque, on se retrouve dans devant des grands rayons avec un choix souvent difficile à faire, vers quoi s'orienter, et les bibliothécaires sont là pour nous conseiller. Mais sur une plateforme, pas forcément, ça peut être plus difficile de savoir vers quoi s'orienter.
Alors voilà, sur la plateforme, si vous allez sur le site du Singulier Médiathèque, vous verrez qu'il y a de la médiation qui est faite en ce moment, par exemple sur Michel Piccoli, évidemment, dans le cadre de la médiathèque numérique. Il y a aussi une sélection qui est faite sur Stanley Kubrick. Voilà, il y a des propositions de mise en avant. Et puis si vous regardez sur le Facebook du Singulier, si vous regardez par exemple les rencontres avec les auteurs de bandes dessinées, vous voyez des textes explicatifs, des récapitulatifs, des choses assez intéressantes qui permettent de découvrir des auteurs connus comme Étienne Davodeau par exemple, mais aussi des coloristes, des scénaristes, des intervenants de bande dessinée qui sont pas forcément en tête de gondole, mais qui sont aussi très intéressants et qui ont des choses à dire et qui éveillent chez nous un certain nombre d'émotions, de sentiments, une certaine beauté, une certaine poésie aussi. Il y a vraiment ce travail de médiation intéressant qui a été développé, et c'est à ça que s'appellent les bibliothécaires en fait.
Et le lien, j'imagine qu'en retour, en proposant tant de choses pendant le confinement sur les réseaux sociaux, vous avez pu, paradoxalement, je dis ça souvent, mais on était éloignés, mais ça a pu rapprocher aussi peut-être, créer plus de liens avec le public des médiathèques et bibliothèques.
Alors, ça a permis d'abord de répondre à un besoin essentiel qui est de se dire que pendant cette période de confinement, on a besoin aussi de se nourrir, de se divertir, de s'enrichir. On a besoin de s'évader un peu au sens propre et de rêver un peu. Et c'est quand même à ça que les auteurs, que les artistes nous amènent. Ce lien de médiation, comment dire, il n'y a pas de concurrence entre, de mon point de vue, entre ce qu'on peut faire en ligne et ce qu'on fait en réel. Chacun a des attentes différentes. Certains ont absolument besoin d'avoir le livre en version papier entre leurs mains. D'autres se satisfont d'avoir un accès à distance depuis chez eux. Et puis beaucoup aiment avoir les deux. On est content de pouvoir regarder un film depuis chez soi en streaming, et on est content aussi de venir sur place retirer des livres. Donc je pense pas que le développement du numérique et des activités à distance réduise la fréquentation sur le long terme. Ouais. Je pense qu'au contraire, il y a différentes formes d'accès.
Et justement, j'imagine que depuis là, vous avez réouvert les médiathèques depuis quelques jours. Comment s'est passée cette réouverture? Il y a eu une certaine affluence?
Alors, sur la réouverture, d'abord, pour nous, ça a été du travail pour imaginer les conditions sanitaires dans lesquelles on pouvait réouvrir. Il y avait un vrai questionnement de savoir s'il fallait faire uniquement du drive ou aussi de l'ouverture physique. Le choix a été fait par les élus de la communauté de communes d'ouvrir les médiathèques. Donc, au total, il y a les médiathèques de Belleville, Le Singulier, de Beaujeu, de Fleury, de Quincy et aussi de Saint-Georges-du-Renard qui ont réouvert. La fréquentation est limitée parce qu'on a une jauge limitée. On peut pas avoir des centaines de personnes dans l'équipement simultanément. Donc ça limite la fréquentation, mais depuis l'ouverture, on a eu un tout petit peu moins de 1000 usagers, on a eu très exactement 998 usagers là, en 2 semaines de fonctionnement sur ces équipements, et on a prêté presque 6000 documents, livres, CD, DVD. Donc c'est pas une grosse affluence, hein, c'est des chiffres qui sont beaucoup plus bas que ce qu'on fait d'habitude, mais ça montre qu'il y a quand même une demande, et puis les gens étaient contents de pouvoir renouveler leur stock de documents et de revenir. Donc voilà, on a réouvert partiellement, c'est-à-dire que vous pouvez pas accéder aux jeux vidéo, aux espaces informatiques, vous pouvez pas encore travailler sur place, vous pouvez pas encore accéder à la presse papier, vous pouvez juste venir et emprunter comme ça se faisait dans les années 80. Donc on n'a pas une réouverture à 100% de nos services, ce qui fait que tout le monde n'est pas encore revenu, puis il y a encore des personnes qui craignent un petit peu de ressortir de chez elles. Donc c'est un redémarrage progressif, mais les gens sont contents, et voilà, 6000 prêts de documents en 2 semaines, ça montre quand même qu'il y a un besoin, qu'il y a une clientèle en face.
Il y a un besoin de retrouver des documents qu'on peut toucher et qu'on peut utiliser plutôt que de les avoir derrière un écran. Comment le public réagit aux normes, aux règles de sécurité qui sont mises en place? C'est respecté sans souci, ça...
C'est respecté. Alors à 99,99%, tout le monde comprend. On a eu juste le premier jour une personne âgée qui comprenait pas pourquoi, et d'ailleurs qui comprenait pas pourquoi on avait fermé pendant 2 mois. Il trouvait pas ça normal. Voilà. À part cette personne qui sortait un peu bizarre. Non, sinon les gens comprennent tous. Puis bon, les règles sont assez simples, c'est-à-dire porter un masque, se désinfecter les mains. On a un circuit différent pour les livres en retour qu'on met en décontamination pendant 10 jours. Donc on a un stockage assez important de documents, mais ce qui fait que quand vous êtes dans les médiathèques, soit vous rentrez dans la médiathèque, soit vous avez fait un drive et vous prenez vos réservations. Mais voilà, la distanciation sociale, le port du masque, etc. Tout le monde le comprend. Ça se passe bien. Il n'y a pas de difficulté particulière. Et puis ça rassure, je pense, un certain nombre d'usagers. Ouais.
Les projets futurs d'ouverture peut-être un peu plus généralisés, vous avez des idées de comment vous voyez le futur pour les lieux culturels comme la médiathèque dont on parle, mais aussi pourquoi pas d'autres lieux, les musées
Alors les musées, on a cette autorisation de réouverture des petits musées, donc pareil avec une jauge limitée. On n'est pas sur une problématique compliquée pour les musées, c'est-à-dire que l'espace de vie de la Maison du Terroir et puis l'Hôtel Dieu de Belleville, qui est un établissement assez remarquable, on n'a pas de difficulté de fréquentation. On n'est pas sur les jauges des musées parisiens ou de Genève. Enfin, on est sur des équipements qui sont plutôt faciles à faire fonctionner. Notre grosse interrogation, ça concerne les événements de l'été avec les cinémas en plein air, les spectacles jeunes publics au col de Cry, avec le fonctionnement du théâtre de la Grenette à Belleville à la rentrée. Et on attend beaucoup des annonces qui pourraient intervenir demain, des annonces gouvernementales demain. Mais on est en train de travailler sur des configurations possibles. On est plutôt optimiste sur les cinémas de plein air puisque la distanciation est facile à mettre en œuvre sur des espaces comme ça assez larges. Donc on travaille sur ça et il y a quand même des signaux qui sont positifs. Il y a également le monde associatif qui s'engage. Par exemple, il y a le Festival de Zing qui prévoit son édition cet été du 21 au 23 août à l'aérodrome de Pizay à Saint-Jean-d'Ardière. Voilà, tout le monde a un peu dans les starting blocks à pouvoir démarrer. Donc on pense que ça va pouvoir. En tout cas, on attend beaucoup de demain. On pense qu'on va pouvoir relancer les choses. Ce qu'on a fait pour la partie médiathèque, c'est un mix donc de fonctionnement en drive et de fonctionnement sur place. On a modifié les horaires et on va voir comment les choses progressent dans les mois qui viennent. On est plutôt sur une tendance positive en ce moment.
D'accord, alors il nous reste une toute petite minute. Comment est-ce qu'on se tient au courant de toutes les informations quant à la culture sur le territoire de la communauté de communes Saône-Beaujolais?
Alors vous avez plusieurs sources d'informations. Pour tout ce qui concerne les destinations non touristiques, pour les randonnées, etc., vous allez sur destinationbeaujolais.com, destination-du-6-beaujolais.com, et vous avez toute l'info de randonnée. Vous allez sur le Facebook de la Maison de la Randonnée, sur le Facebook de l'Hôtel Dieu de Belleville, sur le Facebook du Singulier. Vous avez beaucoup d'informations à jour, et puis aussi sur le site de la communauté de communes. Toutes ces informations sont données en termes d'horaires et toutes les informations pratiques pour ces équipements.
Très bien. Et ben merci beaucoup Olivier Legroux de nous avoir éclairé sur ces lieux de culture dont on attend l'ouverture avec impatience sur tous les événements prévus cet été. Encore merci pour cette participation à l'antenne.
Merci à vous, très bonne journée.
Calade, 13h.
Ensemble sur Calade.
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 Ensemble sur Calade, c'est en direct du lundi au vendredi de 12h à 14h, évidemment sur Calade.
Calade.
Et nous
voilà de retour dans Ensemble sur Calade. Ravi de vous retrouver pour cette seconde partie d'émission dans laquelle on a bien sûr l'habitude de retrouver Georges Botton pour sa rubrique Mais la 11e, où il nous propose de jeter un coup d'œil sur un morceau de jazz en nous présentant l'artiste derrière et son histoire. On aura aussi rendez-vous avec Svetlana Guillard-Braga de Musique Adem pour parler de cette école de musique à Villefranche. Les professeurs ont d'ailleurs mis en ligne récemment une musique enregistré à distance et qu'on aura le plaisir d'écouter. Mais tout d'abord, eh bien, c'est mercredi aujourd'hui, traditionnellement le jour des sorties ciné. Alors même si les salles obscures sont toujours fermées, eh bien, ça ne nous empêche pas de parler cinéma. Et pour ça, eh bien, on retrouve Vincent Pourageau, animateur de l'émission Cinérama. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Comment allez-vous aujourd'hui ?
Eh bien ça va. Tout va bien, tout va bien.
Ça va, vous arrivez à tenir le coup dans l'attente de l'ouverture des salles
Oui, bah déjà parce que moi je rattrape tout ce que j'ai pas pu voir durant toute l'année, donc j'ai même le temps de voir des séries, ce que j'ai pas l'habitude de faire habituellement. Donc non, enfin finalement moi j'en tire une certaine satisfaction de cette situation.
Oui, moi d'ailleurs j'ai pu voir récemment Star is Born, que j'avais pas eu l'occasion de voir à sa sortie au ciné. J'étais assez content de le revoir. C'est vrai que ça fait partie des plaisirs qu'on a, c'est de pouvoir se mettre à jour sur ce qu'on avait raté.
Effectivement, ouais.
Alors, vous avez l'habitude de nous proposer un film ou un réalisateur dont on pourrait regarder quelques films dans cette rubrique. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je vais parler de deux films assez singuliers et qui ont tous été touchés par la période de confinement. Je vais vous parler de Vivarium, dont la sortie était prévue le 11 mars. Pas de chance, hein, il a réuni, je ne sais plus, 15 000 entrées hein, seulement. Il ne tente pas que ça. Et puis un autre film, Technoboss, un film portugais qui lui devait sortir la semaine d'après. Et donc le distributeur a décidé d'en faire une sortie e-cinéma, donc une sortie exclusive en VOD ce jour-ci. Voilà.
D'accord.
Alors je vais commencer peut-être par Vivarium. Hein.
Ouais.
Voilà. Donc lui, donc, il devait sortir donc, quelques jours avant la fermeture des cinémas. Alors c'est un long métrage de l'Irlandais Lorcan Finnegan et qui mérite vraiment qu'on s'y attarde, même s'il porte en lui un sujet qui pourrait paraître anxiogène vu la situation qu'on vient de traverser. Alors le problème avec ce genre de film, c'est que de trop en parler, c'est le dévoiler. Vivarium, c'est une fable dans laquelle le fantastique rejoint un temps l'horreur d'une situation d'enfermement. C'est pour ça que c'est problématique. Alors on suit un jeune couple qui par hasard suit un agent immobilier désireux de montrer un lotissement dans lequel il ferait bon vivre. Mais cette zone pavillonnaire va faire office de prison à ciel ouvert. Alors comment, pourquoi, est-ce qu'on peut s'en échapper ? Pour cela, il faudra voir ce film qui apparaît comme une dénonciation de notre société standardisée et consumériste, hein, si on voulait vraiment grossir le trait. La mise en scène est vraiment limpide, c'est un huis clos infernal dans une zone pavillonnaire. C'est vraiment solidement mené avec des scènes qui se répètent, mais c'est jamais ennuyeux, c'est vraiment une belle surprise. Et il a remporté le prix, c'était la semaine de la critique en 2019, le prix Gann du cinéma. Bon, voilà, si ça peut aider.
Et pour avoir vu la bande-annonce, je me rappelle d'une esthétique avec des couleurs un peu blafardes et puis immaculées, assez unies, quelque chose de plutôt épuré. Oui. Vraiment un visuel assez surprenant.
Il y a un vrai travail sur la lumière, d'autant qu'il y a beaucoup de scènes aussi qui se tournent dans l'obscurité. Voilà, c'est vrai qu'il y a une belle mise en scène.
Donc Vivarium. Et puis le second film dont vous voulez nous parler, Technoboss. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce nom ?
Alors Technoboss, ça c'est un film d'un auteur portugais. Alors c'est un film d'auteur, hein, vraiment, de João Nicolau. Alors lui, il était donc initialement programmé en mars, mais donc le distributeur a décidé que sa carrière dans les salles finalement attendrait au profit de la vidéo à la demande. Donc ça sort en e-cinéma. C'est l'histoire de Louis qui est directeur commercial dans une petite PME de systèmes intégrés de contrôle d'accès. En gros, il installe des systèmes automatisés, des caméras, des alarmes partout où les gens en demandent, et il va même jusqu'à exagérer. Hein. Louis, il vit seul avec un chat qui s'appelle Napoléon. Voilà. Alors, on ne sait pas grand-chose de lui, mais il a cette capacité à faire glisser les événements qui pourraient être vus pour des contraintes, en parodiant en quelque sorte sa vie en chansons. Des chansons qu'il interprète pour l'essentiel alors dans sa voiture, vu qu'il est directeur commercial, autant dire qu'il avale des kilomètres. mètres. Et donc, il y a beaucoup de chansons dans Technoboss. Et puis, certaines sont drôles. Et il en fait même en duo avec un groupe de métal. Enfin, voilà, il y a des choses assez incongrues. Hein. Finalement, c'est un film un peu délirant. Un film fantaisiste, poétique, teinté de mélancolie. Alors, en termes de mise en scène, il y a beaucoup de plans fixes qui dominent. Et il y a des situations qui sont absurdes, drôlatiques. Alors, on pense à Tati, un Tati plutôt mélodieux. Et puis, ce qu'on voit, c'est que sa génère qui s'approche de la retraite, eh bien, est comme un enfant, un adolescent, il change. Alors, c'est à la fois exceptionnel et plus banal, hein, ce qu'on voit. C'est dans une lumière crue. Et le réalisateur portugais nous donne à voir cet homme dans le présent. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que le film commence alors d'une manière totalement inattendue. On se demande ce qu'on va voir, parce qu'on voit juste un type qui est en panne de voiture et se fait ramener par une dépanneuse. Et bon, comme on apprend ensuite, eh bien, qu'il chante énormément dans cette voiture, on comprend qu'il y a quelque chose qui va se dérégler. Voilà.
L'importance de la voiture Technoboss. Alors moi, quand j'ai entendu ce nom, je m'attendais à un jeu vidéo des années 80.
Oui, ou un gros film de science-fiction.
Ouais.
Bien, non.
D'accord, non. Donc un film portugais, non, c'est, alors.
Ça met un peu aussi en lumière l'importance de la technologie dans notre société, et puis qu'il met en vis-à-vis bien d'une retraite qui s'annonce. Enfin voilà, enfin d'une génération qui n'a pas totalement fait le pas de la technologie. Voilà.
D'accord, donc ce film qui est sorti alors en VOD, qu'on peut voir dès à présent
pas mal de plateformes, enfin vraiment beaucoup, les plateformes habituelles. Donc toujours pour 4€ à peu près la location, et un peu plus si on veut l'acheter.
Très bien, donc Vivarium et Technoboss, c'était les deux conseils cinéma du jour. On vous retrouve tout à l'heure à 16h sur l'antenne de Calade dans l'émission Cinérama. Quels sujets vont être abordés dans cette émission ?
Eh bien, je parlerai plus longuement de Technoboss. Vivarium, ce ne sera pas traité par moi, mais par Marine. On parlera aussi de Jojo Rabbit, film qui était sorti, alors c'était au mois de janvier, je crois, et qui donc est présent en VOD. Et puis on parlera du premier film tahitien tourné à Tahiti par un Tahitien. C'est l'oiseau de paradis. Voilà. Donc ça, c'est Manu qui va nous parler de ça. Et puis on parlera pas que de VOD, puisqu'on parlera aussi d'un DVD Blu-ray. C'est celui d'un film de Mario Bava, Hercule et les vampires.
Très bien.
Film où il n'y a absolument pas de vampires.
Bon, voilà. On découvrira ça tout à l'heure, c'est à 16h dans l'émission Cinérama. Merci beaucoup Vincent de nous avoir proposé ces films à regarder.
Eh bien, merci encore une fois à Calade.
Et puis on vous dit à bientôt dans cette émission. On vous retrouve la semaine prochaine.
Oui, à la semaine prochaine. Portez-vous bien.
Allez, à bientôt.
Ensemble sur Calade. Ensemble sur Calade. Ensemble sur Calade.
Allez, avant de retrouver Georges Botton pour sa rubrique Mais la 11e, eh bien, je vous propose d'écouter une musique de film puisqu'on parlait cinéma. Alors, j'ai entendu dans pas mal de films celle-ci, Father and Son de Cat Stevens, que je trouve magnifique et qui tire souvent la larmichette quand on la voit au cinéma.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. To explain, when I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I come. go away. I know I have to go. Make a change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Father and Son de Cat Stevens sur Calade.
Et bonjour Georges, on te retrouve pour ta rubrique quotidienne, mais la 11e. Comment vas-tu aujourd'hui ?
Bonjour Mathieu, ben écoute, ça va comme hier, étant donné, et comme lundi, étant donné qu'il fait beau et que ça fait plaisir. Voilà, et toi, ça va ?
Bon, ben tant mieux, ben oui, moi je vais très bien aussi, merci.
Toujours fidèle au poste, c'est bien.
C'est ça. Voilà. Alors, que nous as-tu préparé aujourd'hui, Georges ?
Eh bien, écoute, si tu permets, je salue d'abord mes amis auditeurs et mes amis auditrices, et je leur ai préparé deux petites phrases sur l'amour, puisque, comme j'ai dit hier, c'était le printemps, la saison des amours. Alors, j'ai une jolie phrase, pleine de poésie, d'Alfred de Musset. « La vie est un sommeil, l'amour en est le rêve, et vous aurez vécu si vous avez aimé. » C'est gentil. Et puis alors une autre qui est plus dubitative, plus mystérieuse, de Jean Cocteau, le poète. Le verbe aimer est difficile à conjuguer, son passé n'est pas simple, son présent n'est qu'indicatif, et son futur est toujours conditionnel. C'est très réaliste dans le fond comme phrase.
Oui.
Voilà, mais c'est gentil toutes ces phrases. Moi j'adore ça.
C'est joli, c'est poétique.
C'est poétique, voilà. Et alors donc, bien écoutez, amis auditeurs, amis auditrices et amis Mathieu, je vous ai programmé aujourd'hui un très beau blues qui s'appelle Parchman Farm Blues, qui est enregistré le 7 mars 1940 à Chicago. Et il est interprété par Booker White à la guitare et au chant, et accompagné, qui est accompagné par Washboard Sam, au Washboard, comme son nom l'indique. C'est un très beau blues. Je vais vous dire deux mots de Booker White, parce que pour moi, c'est un géant du blues. Son vrai nom, c'était Booker T. Washington White. Et il est né le 12 septembre 1909 à Houston, dans le Mississippi. Décédé le 26 février 1977 à Memphis, dans le Tennessee. Il a vécu 63 ans. Enfant, il a chanté à l'église baptiste, et à 9 ans, il apprenait la guitare avec son père. Vers 1920, c'est-à-dire à 11 ans, il avait déjà une vie errante. Vous voyez que la vie de ces Noirs n'était pas facile du tout, dans le Delta. Et c'est là qu'il a rencontré le grand chanteur de blues, Charley Patton, dont je vous ai mis un morceau il y a quelque temps. Il a fait un premier disque, et là je parle de Booker White, hein, un premier disque pour Victor en 1930, à 21 ans. En 1930, toujours, il a eu une vie vagabonde dans les différents États des États-Unis et à Chicago. Et à Chicago, il y a pratiqué d'ailleurs la boxe et le baseball. En 1937, il a enregistré pour Vocalion. Il a eu un gros succès avec un morceau qui s'appelle « Shake Em On Down ». Alors là, c'est là où c'est beaucoup plus grave. En 1937, il a été condamné pour tentative de meurtre et incarcéré à Parchman Farm, excusez-moi. Et là, il a été découvert par Alan Lomax. Alan Lomax est un ethnomusicologue, un blanc, qui a fait énormément de recherches dans les États-Unis pour découvrir des grands talents de chanteurs de blues qui pourrissaient et qui étaient parfaitement méconnus. Il a été découvert, retrouvé donc par Alan Lomax, et qui lui a fait enregistrer deux faces pour la Bibliothèque du Congrès. Et Booker White a été libéré sur intervention de Lester Melrose, qui était un producteur de blues et un compositeur. Ensuite, Booker White a fait de nombreuses tournées en Europe, y compris avec l'American Folk Blues, tiens, faudra que je vous en parle un jour, et il apparaît dans le film « En remontant le Mississippi » de Claude Fleuter et Robert Mantoulis en 1972. Alors, Booker White, vous vous rendrez compte par ce morceau que je vous mêle, par Swan Farm Blues, c'est un artiste d'une grande intensité, un peu terrifiante. Il a une voix hurlée, rappeuse, très profonde. Ça sort des tripes, disons en clair. Et il a, au point de vue guitare, il a un rythme qui est puissant, et en particulier parce qu'il martelait beaucoup les cordes graves de sa guitare, les cordes métalliques d'ailleurs. C'est pour moi un très grand chanteur de blues, voilà, traditionnel.
Et Georges, tu nous as dit qu'en 1937, si j'ai bien compris, il avait fait un séjour à Parchman Farm. C'est le titre du morceau qu'on va écouter, là, Parchman Farm Blues. C'était quoi cet endroit?
Alors, Parchman Farm Blues, c'était une gigantesque prison qui était dans le Mississippi, dans le comté de Sunflower, Fleur du Ciel. C'est assez paradoxal pour y mettre une prison, d'ailleurs. Officiellement, au point de vue administratif, ça se nommait le Mississippi State Penitentiary, la prison d'État du Mississippi, et c'était supervisé par le Mississippi Department of Correction, ça veut tout dire, rien que le mot correction. C'est un établissement qui a été ouvert en 1901, et alors je ne sais pas si tu es assis, Mathieu, mais c'est une prison qui faisait 73 000 hectares, c'est-à-dire 73 kilomètres carrés. C'était un truc absolument gigantesque. C'était bien entendu, surtout au point de vue dans les champs. Il y avait un camp pour les blancs, un camp pour les noirs, et il y avait malheureusement aussi un lieu ou un local pour les exécutions capitales, avec le célèbre couloir de la mort. La discipline était absolument terrible, j'ai des documents là-dessus, c'était très 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 dur pour les prisonniers et en particulier pour les noirs. Il y avait d'ailleurs également une autre prison pour les femmes qui s'appelle le Central Mississippi Correction Facility. Voilà, c'est Parchman Food, ça a été une prison terrible.
Et c'est
voilà, cher ami, est-ce que j'ai éclairé ta lanterne, qui brille d'ailleurs.
Oui, merci Charles, merci. Donc c'est le morceau qu'on va écouter, alors Parchman Farm Blues par Booker White. Merci beaucoup Georges.
Eh bien écoute Mathieu, je te dis, donc on est mercredi, je te dis à demain.
Et oui, à demain.
Et je dis pareillement aux amis auditeurs et auditrices, et je leur souhaite une bonne journée.
Allez, à demain, même heure, Georges. Bonne
Mathieu.
Journée. Salut.
Good, give me life this morning down on Parchman Farm. Good, give me life this morning down on Parchman Farm. I wouldn't hate it so bad, but I left my wife and mom. Oh, you, goodbye wife, all you have done gone. Oh, goodbye wife, all you have done gone. But I hope someday you will feel my lonesome song. You better sell for
We go to wake in the morning, just the dawn of day. We go to wake in the morning, just the dawn of day. Just the descent of the sun, that's when don't wake your dawn. Phone. I sure wanna go back home. I'm down on the apartment phone, but I sure wanna go back home. But I hope someday I will overcome.
Marshman Farm Blues, de l'un des précurseurs du blues, Buck Howitt, c'était un morceau de 1940 et c'était le choix musical de Georges Botton pour sa rubrique Mais la 11e.
Ensemble sur Calade. Ensemble sur Calade. Ensemble sur Calade.
Et oui, nous sommes bel et bien ensemble sur Calade. Et pour cette dernière partie d'émission, on retrouve Svetlana Guillard-Braga pour nous parler de l'école de musique Musicadem qu'il y a à Villefranche. Bonjour Svetlana, comment allez-vous ?
Bonjour Mathieu, bonjour toute équipe. Écoutez, très très bien. Hein. Très très bien. On est reparti bloc.
Vous êtes reparti avec énergie. Alors, pour commencer, est-ce qu'on pourrait présenter un petit peu le Musicadem, l'école de musique, ce que c'est ?
Donc, c'est une école qui a fêté les 10 ans l'année dernière. Donc, il y a quelques semaines et un an, voilà. Donc, on a une équipe de 14 professeurs. Donc, bien sûr, guitare, batterie, basse, chant, clavier. Donc, vraiment dirigé vers un répertoire musique actuelle. Mmh. Donc, voilà, une équipe très, très dynamique. Donc, tous les ans, on a 10 à 15% d'élèves, d'effectifs en plus. Donc, actuellement, on est à 267 élèves. Donc, on est ouvert, bien sûr, aux enfants, aux ados, mais aussi aux adultes. Donc, la différence, on va dire, des écoles, c'est qu'on est dès le départ parti sur ateliers, ce qu'on appelle, nous, les ateliers, c'est-à-dire que les élèves ont des cours individuels, une semaine sur deux et l'autre semaine, ils jouent en groupe. Mmh. C'est là qu'ils se retrouvent le plus et le plus enrichissant, parce que la musique, c'est un partage d'abord. Donc, quelques mois de cours d'instruments ou de chant, les élèves, ils intègrent un groupe. Et ça, c'est formidable, parce qu'ils s'éclatent à choisir des morceaux, à les jouer ensemble. Et c'est encadré, bien sûr, par les profs. Ça se passe super bien.
Et c'est vraiment le savoir jouer d'un instrument. Ça veut dire qu'on commence tout de suite avec l'instrument dans les mains. J'imagine qu'il y a l'apprentissage de la lecture de la musique, mais qu'on le fait directement avec l'instrument, c'est ça ?
Tout à fait. Donc, ça se passe vraiment dans le cours d'instrument. On ne fait pas de cours de tout ce qui est formation musicale à côté. Déjà, d'un instrument à l'autre, les besoins ne sont pas les mêmes du tout. Et en plus, c'est pas quelque chose qui est accrocheur, on va dire. On a besoin d'entendre, de faire sonner, que ça soit une corde de guitare, que ça soit les cordes vocales et que ça soit une touche de piano, avant d'apprendre quelque chose de théorique qui peut être plus contraignant qu'autre chose. Ouais. Après, bien sûr, petit à petit, on les amène parce qu'on en a besoin, mais disons qu'une fois que les élèves ont commencé sur l'instrument ou à chanter, ils voient un peu plus l'utilité, à quoi ça sert après, ils le font volontairement. Mais au départ, ça se passe sur l'instrument. On écoute, on entend et on produit un son, et ça, c'est déjà... Sitôt qu'on est entré dans l'école, on fait ça.
Donc la pratique de la musique avant tout, et puis la pratique en groupe, vous nous l'avez dit, et sur scène, je crois que vous organisez aussi régulièrement les fameuses jam sessions où chaque groupe peut s'essayer à la scène et aussi se frotter au public assez rapidement.
Tout à fait. Donc les élèves qui jouent déjà un petit peu, donc au bout de 3 mois, ils sortent sur scène. On a le concert, si on prend l'ordre chronologique de l'année, en décembre, il y a le concert des Lumières. Donc ils sortent tous sur scène, ils produisent un morceau pour les parents, les amis qui vont les écouter. Ensuite, il y a d'autres concerts dans l'année, bien sûr les concerts de fin d'année. Hein, je vous en toucherai un petit mot de celui de cette année qui est un petit peu particulier. Et il y a bien sûr les jams. Donc ça se passe une fois par mois. C'est ouvert aux élèves, mais pas que. Mmh. donc à tout public. Donc musiciens, ceux qui souhaitent venir jouer, ceux qui souhaitent venir écouter les amis jouer, ben voilà, c'est ouvert à tous. C'est un moment de partage formidable. Ça se passe un peu sur Facebook en proposant des morceaux, un peu aussi sur place. C'est un peu qui a envie commence. C'est vraiment un échange riche, point de vue musical, mais pas que humain aussi. Hein.
Autour de la musique. Et alors la dernière période qu'on vient de vivre, les deux trois derniers mois de confinement. Comment ça s'est passé pour Musique Adem? Qu'est-ce que ça a impliqué pour vous?
Pour nous, sincèrement, ça a été. On s'est dit tout de suite, waouh, comment on va faire? Et en fait, finalement, très très vite, au bout d'une semaine, tous les cours visio ont démarré. On s'y est mis tous. On a tellement de possibilités aujourd'hui entre le Zoom, le WhatsApp. Toute l'équipe a été vraiment volontaire d'apprendre quand on ne sait pas et quand on sait, le partager avec les autres. Ça a été vraiment très très riche. On s'est mis en question, on s'est dit comment on va faire et finalement on a trouvé des solutions pour les 100% des élèves. Les cours en visio, même si la liaison n'est pas formidable toujours, on arrive quand même à faire les cours et à faire en sorte que la continuité pédagogique soit là et les élèves l'ont énormément apprécié.
Et j'imagine que aussi garder le lien quand on est élève de musique et qu'on apprend à faire de la musique confiné chez soi, c'est agréable d'avoir ce rendez-vous régulier, d'avoir des repères et puis tout simplement continuer à avoir une activité à peu près normale dans ce moment aussi particulier.
Bien sûr, ça a été vraiment ce qu'on a découvert en fait, c'est que via les cours, les élèves sont ravis de nous retrouver, mais pas que effectivement pour jouer de son instrument. On se rend compte qu'en fait le lien avec les gens il est primordial et que la musique n'est pas simplement un passe-temps. C'est vraiment ils le font avec grand plaisir. Et que ça soit les moyens du bord, bah tant pis, on dépend effectivement de la connexion de ceci, de cela, mais on est super content de se retrouver. En visio, on se voit quand même. Avec les moyens d'aujourd'hui, on arrive à échanger par différents moyens. Et super chouette de se revoir tous.
Et vous l'avez dit, c'est quand même c'est des outils très pratiques, mais il faut, pour ceux qui ne savent pas s'en servir, il faut quand même apprendre. Alors j'imagine qu'il a fallu être réactif pour se mettre à niveau pour certains. Ça s'est passé facilement
Oui, ça a été très très rapide. Hein. Au bout d'une deux semaines, les cours ont démarré tous. Alors effectivement, on a des profs assez jeunes tous, donc ils sont quand même un petit peu connectés, on va dire. Et pour ceux qu'on connaissait pas différents moyens, notre solution tout de suite, c'est de se réunir déjà en Zoom tous, de s'échanger toutes les idées, tous les moyens qu'on connaît tous, et de se dire quel est le meilleur moyen pour chaque instrument ou même pour chaque élève, disons, pour ceux la connexion est vraiment pas bonne. Voilà, trouver quand même des solutions. Et ça a été vraiment un échange entre nous, professeurs top. Et du coup, on a trouvé des solutions pour tout le monde très, très rapidement.
Et on parlait tout à l'heure des concerts de fin d'année. J'imagine rendez-vous très attendu par les élèves et puis par leurs familles qui ont envie de voir un petit peu les progrès qu'ils ont pu faire dans l'année. Comment est-ce que vous imaginez ça?
Alors cette année, effectivement, la fin de l'année, nous, on a fini chaque fois la saison avec un événement festif incontournable. On ne s'imagine pas, ce côté festif de la fin d'année, c'est primordial. Et cette année, ça va être sur la toile. Donc nous avons créé un groupe à cette occasion qui s'appelle Musique Adem fait son show. Ça se passe sur Facebook. On le relie ça avec Instagram. Donc la semaine de répétition générale qui était prévue, la première semaine du mois de juin, ça se transforme un petit peu en rendez-vous visio ou audio pour guider un petit peu les élèves qui ne savent pas faire les podcasts ou les vidéos, etc. L'idée, c'est que vraiment tous les élèves puissent s'exprimer, que ça soit ensemble avec d'autres via visio et puis publier après, que ça soit individuellement, que ça soit peut-être des petits souvenirs à l'école, d'autres concerts, d'autres répétitions. Vraiment, c'est ouvert, très très ouvert à différentes choses. Et j'espère que l'échange sera très très riche et qu'ils sont très très nombreux à participer.
Donc on peut attendre dans une ou deux semaines à une avalanche de contenus musicaux sur vos pages.
Je pense. On a déjà reçu quelques petites vidéos et on va commencer la diffusion à partir du 15 juin et ça va continuer jusqu'au 15 juillet. Après, s'il y a vraiment de, voilà, de la demande pour l'été, on puisse continuer, je pense qu'on pourra le continuer, il n'y a pas de raison. En tout cas, du 15 juin au 15 juillet, j'espère qu'il y aura beaucoup, beaucoup de publications et que tout le monde sera, voilà. Déjà, on va commencer par celle des professeurs. Donc, on a fait une vidéo pendant le confinement. Et donc, on va commencer par celle-ci. Et puis, toutes les autres qui arrivent au fur et à mesure, hein, pouvoir diffuser plein de choses. Ça demande vraiment aux élèves d'être très inventifs, très imaginatifs. Donc voilà, on va ouvrir ça et je pense que ce sera vraiment un moment festif différent des autres années, mais qui sera d'autant plus excitant.
Et ben en tout cas, moi je suis curieux de découvrir toutes les créations musicales qu'on va pouvoir retrouver sur vos réseaux sociaux. La reprise des cours en physique, est-ce que pour la saison prochaine, ça commence à se profiler?
Oui, alors nous travaillons beaucoup maintenant avec les professeurs en visio, on travaille sur le contenu, sur les modules que nous allons, voilà, sur le contenu pédagogique, sur le contenu musical et aussi sur l'équipement qu'on va mettre en place. Donc les locaux, il y aura beaucoup de changements au niveau des locaux, des équipements avec des paroplexis, haute protection, gel et j'en passe. Donc il y a, voilà, on met vraiment tout en œuvre pour accueillir tout le monde en toute sécurité. Il y aura vraiment tout ce qu'il faut.
Très bien. Et alors, Musicadem aussi, c'est quand même une salle de concert, le Quai 472. J'imagine que la saison aussi, ça vous demande beaucoup de temps d'organiser la prochaine saison.
Alors, c'est Thierry qui s'occupe, donc Thierry Gastaldello s'occupe de ça à merveille. Mmh. Il a énormément de demandes. Effectivement, nous avons été contraints à annuler 11 concerts sur le printemps, début de l'été. Malheureusement, qu'on espère quand même le pouvoir les faire, mais un peu plus tard, on va dire les décaler. Et au niveau de la salle, on est un petit peu plus dans l'attente de ce qu'il faudra mettre en place. Mais c'est sûr que quoi qu'il en soit, c'est un lieu d'échange musical important, de diffusion, que ce soit pour les professionnels ou pour les amateurs. Mmh. Et qu'on fera tout pour pouvoir y ouvrir au plus vite possible. Faire en programmation peut-être dans un premier temps des événements avec où on peut accueillir moins de monde. Mais quoi qu'il en soit, sitôt qu'on aura une autorisation d'ouvrir, on sera prêt.
Oui, j'imagine que ouais, l'attente des annonces gouvernementales, bon, on est tous en train d'attendre de savoir quand est-ce qu'on va pouvoir se retrouver dans des lieux publics et puis dans les salles de concert. Svetlana Aguiar-Braga, on va se quitter avec le morceau que vous avez mis récemment sur les réseaux sociaux, avec Confine Musique. Vous avez chanté, je pense avec un peu d'humour, I Will Survive.
Tout à fait. C'était vraiment un départ, on a donné libre choix à tous les professeurs en partant juste d'une grille d'accord et un tempo. Et chacun s'exprimait vraiment comme il a souhaité, un peu en partant vraiment ce que, selon son inspiration du moment. Et effectivement, pour nous, c'est un petit message. Hein. On sera toujours là et on se relèvera encore plus fort.
Très bien, bon, on va écouter ça avec plaisir. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et puis bonne fin de journée et à bientôt.
Merci beaucoup Mathieu, merci à tous.
Allez, on va écouter Confine Musique, c'est le nom du groupe, avec I Will Survive sur Calade.
Buster was afraid, I was petrified, kept thinking I could never leave without you by my side. But when I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I was strong, I learned how to get along.
Et c'est déjà la fin de cette émission Ensemble sur Calade. Merci de nous avoir suivis. Et à demain, rendez-vous à 12h. Ciao, ciao.